continuer cette petite topique dans la philosophie grecque par rapport à l'éthique. Donc le grand-père, hein, nous l'oublions jamais, c'est toujours le saluer avec vénération, le grand-père Socrate. Dès qu'on est dans l'éthique, connais-toi toi-même. Alors regardez Socrate, regardez Catherine de Sienne. Connais-toi toi-même. C'est curieux, c'est intéressant de voir ça. La connaissance de soi, qui est au point de départ de l'éthique. Vous voyez le danger, la connaissance de soi, c'est très dangereux. Attitude réflexive. L'éthique va être au point de départ de la psychologie, c'est évident. Mais c'est une éthique dégradée, la psychologie. C'est une éthique qui a perdu sa finalité. Alors, le connais-toi toi-même de Socrate, qui vient de l'oracle de Delphes. Vous voyez, c'est curieux, hein? Les deux grandes révélations de la Grèce, Parménide, Socrate. Parménide, l'être, Socrate, l'âme. Connais-toi toi-même, connaître l'âme. Alors, métaphysique, éthique. Et toutes les deux proviennent d'une révélation. Toutes les deux sont enveloppées d'une révélation. C'est quand même très impressionnant, cela, parce que je crois que c'est les deux grands aspects, nous essaierons de le comprendre, les deux grands aspects de la philosophie. Philosophie première, éthique. Et on ne peut jamais les séparer, hein. Celui qui voudrait faire de la philosophie première sans l'éthique ferait une mauvaise philosophie première. Celui qui ferait une éthique sans la philosophie première fait une mauvaise éthique. Alors c'est intéressant de voir Parménide et Socrate. Mais comme Heidegger revient à Parménide, Heidegger n'a pas fait assez de morale. Parce qu'il est encore trop dialecticien. Un dialecticien ne redécouvre pas l'amour. Heidegger veut découvrir l'être sans l'amour. Parce qu'il est encore, au fond, malgré lui, dans une pensée dialectique. Et la pensée dialectique fait qu'on oublie l'amour. Et qu'on ne peut plus saisir l'amour. C'est très important, ça. Et on voit les deux sources de toute la philosophie, Parménide et Socrate. Socrate, c'est le grand-père. Hein. C'est notre Abraham. Hein. Vous voyez bien. Par rapport à notre philosophie éthique, c'est celui qui a eu le courage, hein, de rompre avec une carrière militaire. Il était capitaine de Xénophon et extrêmement courageux pour devenir le pauvre. Mais il est devenu le pauvre. C'est vrai, il est devenu celui qui s'est mis à chercher la connaissance de l'âme. C'est très beau, Socrate. Il faut l'aimer, Socrate. Socrate a joué un rôle très très important dans la philosophie. Je crois beaucoup plus important même que Parménide. Mais voyez le danger, c'est toujours le danger de l'éthique, c'est qu'on se laisse prendre dans l'immanence. Parménide saisit la transcendance de l'être, et il identifie cette transcendance de l'être avec Dieu. Petite confusion. C'est vrai, il identifie l'être métaphysique, mais pas Dieu. Heureusement pour Dieu. Dommage pour l'être métaphysique. Mais l'être métaphysique n'est pas Dieu. C'est ce qui va permettre à l'intelligence de remonter jusqu'à Dieu. Donc il y a une petite parenté, un petit reflet. Mais ce n'est pas Dieu. L'attitude éthique est une attitude réflexive. On réfléchit sur ce qu'on est, dans sa responsabilité, dans son action, pas dans son être. Mais dans son action, dans sa responsabilité, dans ses vertus, dans notre, si vous voulez, dans notre attitude d'engagement, la conscience de soi, la conscience, connais-toi toi-même. Ça, c'est important de voir que c'est né là. Alors, cette attitude réflexive, qui est l'immanence, on découvre cette immanence, cette intériorité, découvrez votre intériorité. La métaphysique nous fait découvrir le dépassement, Et l'éthique fait découvrir l'intériorité. On touche quelque chose de très profond. Ce que les autres ne voient pas. Vous avez un privilège de voir en vous quelque chose que les autres ne voient pas. Donc vous êtes toujours un secret ambulant pour les autres. Il ne faut jamais l'oublier, n'est-ce pas ? Parce que les autres ne voient que l'extérieur. Et vous, vous avez le privilège de voir l'intérieur. Et quand vous avez avec qui vous comprenez que vous pouvez avoir confiance, vous découvrez votre intériorité. C'est ça les confidences. On communique ce que les autres n'ont pas et ne voient pas. On communique quelque chose d'intérieur. Socrate est donc le point de départ, hein, le grand-père. De Socrate est né Platon. Et Platon, il y a un moment donné où Platon a quitté le point de vue, ce que je vous disais, l'interrogation de Socrate. Socrate, c'est le philosophe de l'interrogation. Il a quitté l'interrogation de Socrate pour tomber dans la dialectique. C'est curieux, ça. Platon avait été jusqu'au bout le disciple de Socrate, il aurait été encore plus grand. Il y a eu, je crois, ce phénomène d'ambition politique. Être le philosophe roi, c'est évidemment très séduisant. Il y a eu une séduction. La connaissance de soi au niveau moral est passée à cet aspect de domination. De vouloir, alors c'est resté très grand, puisque Platon est très grand, hein. Il est magnanime, Platon. Socrate est plus grand que Platon, ça j'en suis sûr. Socrate est plus grand que Platon, il est beaucoup plus caché. Il est beaucoup plus caché, il a quelque chose de très caché, Socrate. Il n'a rien écrit, ce qui montre bien. Il a vécu, c'est le vécu, Socrate. Platon, il manifeste, il est un artiste, un très grand artiste. Chaque dialogue de Platon représente une œuvre, un tableau. Et il y a une continuité. Alors faites une exposition de Platon, c'est intéressant, en voyant tous les dialogues successifs. Et chacun dialogue représente quelque chose de particulier. C'est ça connaître Platon, c'est connaître tous les dialogues en essayant de comprendre comment chaque dialogue représente quelque chose. Alors on voit des périodes, comme dans Picasso, première période de Socrate, seconde, première période de Platon, deuxième période de Platon, troisième, et les doctes en discutent. Ça ne va pas très bien exactement. Mais il y a quand même des périodes, et qui sont intéressantes à voir. La première période, socratique, deuxième période, Platon s'émancipe de Socrate, il redevient un homme qui est pris par les idées. Vous voyez, l'idéologie n'est là. Mais une idéologie qui est très particulière, parce que les idées, c'est la réalité. Et alors, à partir de là, progressivement, va se développer une dialectique. Mais la dialectique est déjà en germe au moment où Platon quitte Socrate. Le premier Platon est socratique. Il est le reflet de Socrate. Et puis ensuite, il l'a quitté. Alors c'est pour ça. Pourquoi l'a-t-il quitté? Comment l'a-t-il quitté? Quand on a eu un maître comme Platon pendant 8 ans, on devrait être fidèle. Il n'a pas été fidèle. Enfin, il y a une grosse interrogation, vous voyez. C'est quand même quelque chose qui fait qu'il a un tout petit peu. Et Aristote est là pour dire « Je suis plus fidèle à Socrate que Platon. » Alors ensuite, la rectification d'Aristote. Vous voyez, vous avez déjà là 3 positions éthiques. Sont très intéressantes à voir. 3 positions éthiques fondamentales. La position fondamentale de Socrate, la position de Platon séduit par la politique, la grande séduction de la politique, tout en maintenant le point de vue contemplatif. C'est déjà très beau, hein. On aurait à la tête de l'État un contemplatif comme Platon et quelqu'un qui dit que le point de vue politique a cette taille-là, c'est quand même très grand, hein. C'est un chef politique merveilleux, il a une dimension, on voterait tous pour lui, hein. Platon sur la liste électorale, une première liste électorale, Platon, disciple de Socrate, c'est quand même quelque chose de grand. Et c'est vrai que c'est le premier moment du point de vue politique, mais un point de vue politique éthique, reflet de la contemplation. C'est complexe, hein, Platon, c'est jamais simple. C'est très séduisant, à première vue ça paraît très simple, et c'est jamais simple. C'est pour ça que Platon peut s'interpréter de multiples façons, et on interprétera toujours Platon de multiples façons. Donc il ne faut jamais dire « l'interprétation que j'ai de Platon, c'est la bonne ». Non, vous n'en savez rien. C'est un homme très mystérieux, Platon. Très mystérieux. Je crois que le secret de Platon demeure toujours un secret. Alors c'est pour ça qu'on peut dire qu'il dissimule. C'est très vrai. C'est très très difficile de comprendre Platon. Parce que j'allais presque dire, comme pour un artiste, Platon se donne dans chaque dialogue de façon unique. Alors vous avez le Platon des premiers dialogues, le Platon d'Ulysse. C'est le Platon d'Ulysse. L'Ulysse, c'est l'amitié, c'est le dialogue de l'amitié. Un petit dialogue merveilleux. Vous avez le Platon de la République. Ça, c'est le grand Platon. Puis vous avez Platon en prêtre qui commence à être un tout petit peu plus inquiet. Le banquet, il met Diotime dans le cou. Il s'appuie sur la femme. Platon, il s'appuie sur la femme, c'est quand même curieux. Mais il s'appuie sur la femme, il s'appuie, elle est prêtresse. La nostalgie des femmes d'aujourd'hui. Hein. Diotime, c'est elle est prêtresse, Diotime. Alors je comprends qu'il y a cette nostalgie-là, parce que être celle qui initie Platon à l'amour, c'est quelque chose quand même. Hein. Et Diotime reste celle qui a initié Platon à l'amour. C'est grand. C'est vrai, dans le banquet, Diotime apparaît avec une dimension extraordinaire. Alors c'est inquiétant. Et immédiatement après l'inquiétude, on comprend très bien. Est-ce que tout ça est vrai? Parménide, critique. Platon critique. Autocritique de lui-même. Autocritique de lui-même, pas Platon. Et alors, où il pousse sur la dialectique. Et quand on est trop critique de soi, on s'appuie sur la dialectique. S'appuyer sur Diotime, c'est très bien. S'appuyer sur la dialectique de Parménide, c'est un petit peu dangereux. Vous voyez, donc, il faut bien comprendre la complexité de la morale de Platon. Ça, je crois que c'est très important. La complexité. Est-ce une morale de l'amour? Est-ce une morale de la beauté? Est-ce une morale de la justice? Posez-vous la question. Est-ce une morale de l'amour? Est-ce une morale de la beauté? Est-ce une morale de la justice? Donc une morale politique de la justice. Je crois que c'est les trois grandes questions qu'on doit se poser. Par rapport à Platon. Et au fond, les trois se tiennent tout le temps. Morale de l'amour, c'est la contemplation. Morale de la beauté, c'est l'aspect esthétique qui demeure. Et qui peut-être est cela qui explique tout, parce que c'est le métaxu entre la bonté et la justice. La morale de la bonté. C'est pour ça que Platon peut nourrir l'homme politique de la justice, il peut nourrir l'artiste, il peut nourrir aussi l'homme de l'amour. Parce qu'il y a les trois. Et je crois que les trois sont toujours inséparablement liés. Mais la note dominante, je crois que c'est l'artiste. Je crois que Platon est plus artiste que philosophe. Un très grand artiste. Plus artiste que philosophe, c'est le grand artiste de la forme. C'est pas le philosophe de l'être. C'est le grand artiste de la forme. Et alors la super forme, c'est la bonté. Et la bonté, c'est dit comme une super forme, l'au-delà de l'ousia, l'au-delà de la substance. Et donc, il ne saisit pas vraiment la bonté directement. Il n'y a pas un contact direct avec la bonté. C'est en ce sens-là que je crois qu'il n'a pas saisi jusqu'au bout l'amour. Il l'a saisi esthétiquement. Il n'a pas été jusqu'au bout, dans une manière d'être. Il n'a pas saisi jusqu'au bout. Je crois. Ensuite, Aristote. Aristote, alors, disciple de Platon pendant 20 ans. Aristote, le modèle du disciple. Hein? Modèle du disciple. 20 ans à un maître comme Platon. C'est quand même quelque chose. Et c'est la grandeur d'Aristote d'avoir accepté d'être disciple de Platon pendant 20 ans. Et on croit que Aristote, dès le début, en bon disciple, a dit non aux formes idéales. Les formes idéales, ça n'existe pas. C'est donc l'intelligence qui les forge. Si c'est l'intelligence qui les forge, c'est la confusion entre ce qui spécifie l'intelligence et la manière dont l'intelligence saisit. C'est le primat de l'appréhension des formes idéales. Aristote dit non, c'est le jugement. Aristote, c'est le philosophe du jugement, comparativement à Platon qui est le philosophe de l'appréhension. Et l'exaltation de l'appréhension, l'exaltation de ce que représente ce point de vue de la forme idéale. Aristote revient à ce qui est mu. Alors quand on dit qu'Aristote c'est le philosophe de la nature, c'est vrai. Et c'est pas ça qui caractérise Aristote. Ce qui caractérise Aristote, c'est d'être le philosophe de ce qui est. Et donc vouloir ramener Aristote à la philosophie de la nature à la manière de Gilson, parce que c'est ce que fait Gilson, c'est oublier ce qui caractérise Aristote. Ce qui caractérise Aristote, c'est d'avoir découvert la philosophie de ce qui est en tant qu'être. Et dans cette lumière, d'avoir découvert l'éthique, la distinction entre le bien et la fin. C'est là où on voit toute la différence entre Platon et Aristote. Toute la distinction entre Aristote et Platon. Et c'est très intéressant, parce que c'est à l'égard justement du bien que Aristote nous dit cette fameuse phrase que nous connaissons bien, « Platon et la vérité, je les aime tous les deux », mais la vérité plus encore. C'est très beau, ça. Ça fait comprendre ce que c'est que celui qui cherche la vérité. Ça ne veut pas dire que l'amitié est secondaire pour Aristote, non. L'amitié, quand il dit Platon et la vérité, c'est-à-dire ce que Platon m'enseigne. Malgré mon amour pour Platon, j'aime plus la vérité. Et c'est comme ça qu'il est fidèle à Platon. Aimer plus Platon que la vérité, ce serait une infidélité terrible à Platon. Parce que Platon est quand même un philosophe, donc il cherche la vérité. Et il aime Platon jusqu'au bout, de cette manière-là. Et alors, c'est là où on voit qu'Aristote découvre la finalité, ce que Platon n'avait pas découvert. La finalité comme ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'exercice. Et vous voyez, c'est là où je crois qu'une éthique qui n'implique pas une philosophie première ne pourra jamais découvrir. Ça, ce serait intéressant à voir. La distinction entre le bien et la fin. C'est une distinction subtile, capitale. Distinguer la différence entre le bien et la fin. Le bien, c'est ce qui attire. Nous le verrons, ça, parce que je crois que ça reste toujours actuel. C'est pas parce qu'Aristote l'a dit, mais nous devons le redécouvrir. Et si nous ne découvrons pas ça, nous ne pouvons pas faire une éthique. Si on ne distingue pas l'amour et la fin, on risque toujours de tomber dans l'esthétisme. Vous voyez, Camus. Camus, c'est ça, dans notre monde d'aujourd'hui. C'est un homme merveilleux, mais il n'a jamais fait la distinction plénière entre le bien et la fin. D'où le beau a remplacé l'amour. C'est la beauté qui le séduit. Aristote distingue l'éthique personnelle de l'éthique politique. Et pour lui, l'éthique personnelle est avant l'éthique politique, ce que Platon n'avait pas fait. Parce que l'éthique personnelle me permet de découvrir la finalité propre de la personne, et la personne est au-delà de ce que représente l'aspect communautaire. Aristote montre que la communauté comme telle ne me donne aucune nouvelle finalité transcendante. La communauté me donne une finalité immanente, le bien commun. Le bien commun, c'est une finalité immanente, c'est la fin que je suis capable de faire, qu'on fait à plusieurs, ça raison l'immanence. C'est pour ça que la politique, quand elle est prise, la politique au sens aristotélicien, donc au grand sens, la politique ne me fait pas découvrir la fin personnelle de l'homme. Elle reste au niveau du conditionnement. Nous essaierons de le voir en philosophie politique. Et Aristote distingue là la finalité humaine, l'amitié. Pour lui, l'amour d'amitié est au-delà des vertus. Mais les vertus sont nécessaires pour l'amour d'amitié. Et la dernière finalité de l'homme, c'est la contemplation. Donc il distingue deux finalités pour l'homme. La finalité de l'amitié, ce que Platon n'avait pas découvert. Si Platon avait été disciple d'Aristote, ensuite, dans une manière de revivre une nouvelle vie, on pourrait inventer un Platon qui renaît disciple d'Aristote, il aurait été émerveillé de découvrir que l'amour d'amitié peut être une fin pour l'homme. Mais cette fin n'est pas totale, il y a quelque chose de plus. C'est la contemplation. Donc vous voyez, l'éthique d'Aristote n'est pas simple. Elle n'est pas simple du tout, comme l'éthique de Platon. Il reste une éthique n'est jamais simple, puisque c'est toujours le problème de l'esprit lié à une nature complexe qui implique l'âme et le corps. Donc il y a dans toute éthique un dressage du corps et une éducation de l'âme. Dans toute éthique, il y a ça. Perpétuellement, il y a ce point de vue-là. Notre corps demande un tout. Notre corps est animal. Donc il demande quand même, dans les pattes. Le chien qui veut tout le temps vous donner des amitiés extraordinaires. C'est ces chiens un peu foufous. Enfin, des jeunes chiens, c'est merveilleux. Là, ils viennent se précipiter, ils sont tout dégoûtants, ils se précipitent sur vous. Ils sont merveilleux dans leur affolement passionnel. Et là, ils se précipitent sur vous, ils bat les pattes. C'est ça le dressage. Bah, les pattes, les passions, il faut un peu dresser. Mais il faut éduquer. Il y a un passage entre le dressage et l'éducation. C'est intéressant, important. Et puis l'âme spirituelle qui alors va être pleinement spirituelle, le nous séparé, qui contemple. C'est quand même très très beau, hein. Je comprends très bien que saint Thomas a été émerveillé quand il a découvert l'éthique d'Aristote. Je crois que saint Thomas a été beaucoup plus émerveillé de l'éthique que de la métaphysique, entre nous. Je crois. Et c'est parce qu'il a découvert cette éthique qu'il a fait regarder la métaphysique. Je suis persuadé. Pour le théologien qu'est saint Thomas, découvrir l'éthique d'Aristote est une merveille. De voir quelqu'un qui n'a pas eu la révélation et qui dit deux finalités dans l'homme, l'amour d'amitié, la philia, et la théoria, la contemplation. Saint Thomas, dans son traité sur la charité, prendra la grande analogie de l'amitié, et ça il la prend d'Aristote. Et il montrera que l'homme est fait pour la contemplation. Donc il reprend les deux finalités. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que en terre chrétienne, Jésus montre que la contemplation et la charité fraternelle sont un. Donc le désir le plus profond d'Aristote d'unir les deux finalités sont donnés dans la révélation chrétienne. C'est en ce sens-là, vous voyez, qu'on peut dire que Aristote est quand même le philosophe providentiel qui est une attente de la révélation dernière au niveau chrétien. Je ne peux pas dire ça pour Platon. Je ne peux pas dire que Platon est une attente de la révélation chrétienne. Il y a une grandeur chez Platon comme artiste extraordinaire, mais il n'est pas une attente. Tandis qu'Aristote est une attente. Platon ne comprend pas ce que c'est que la famille. Aristote comprend que la famille est source, fondement de toute la communauté. humaine. Alors, ce n'est pas la famille qui nous fait comprendre ce que c'est que l'éthique, c'est la personne. Ce qui est très important. Dans la psychologie, c'est la famille qui fait comprendre l'éthique. Les psychologues sont toujours penchés sur le point de départ du berceau et des premiers pas. Et donc ça, c'est la famille. Et ils considèrent que c'est les premières déterminations qui font comprendre tout le reste. Pas du tout. L'homme est fait pour dépasser la famille. Il est fait pour ça, il n'est pas fait pour rester toujours en famille. Il est fait pour dépasser la famille. Alors il est fait pour dépasser la famille et quelquefois reformer une autre famille. Mais pour reformer une autre famille, il faut être sorti de la famille. Il n'y a rien de pire hein, que comme un verre qu'on coupe en deux. Hein. Alors l'enfant est resté dans la famille, oh, il va retrouver son autonomie pour le mari, en se faisant marier, comme disent certains. Alors c'est tout simplement le verre qu'on coupe en deux, on coupe la première famille, et ça rate tout le temps, parce qu'il n'a pas d'autonomie. Il faut être sorti de la famille pour fonder une autre famille. Et donc l'homme est fait pour être au-delà de la famille, ce qui n'arrive pas très, très bien compris. Il est fait pour être au-delà de la famille. C'est pas du tout la famille qui est tout, ça c'est aussi un été noir de la personnalité. Vous savez, tous les gens qui ont eu comme père quelqu'un qui a eu une très grande personnalité, une gloire étonnante. Hein. C'est pas commode hein, de dépasser le père. Alors il n'y a que les petits-fils qui arrivent à le dépasser. Et les autres sont toujours en admiration devant le père ça reste. Mais non, il faut dépasser le père si vous voulez être un homme. Il ne faut pas le tuer. Hein. Non, non, mais il faut le dépasser, c'est autre chose. Il faut trouver son autonomie personnelle. Parce que la vocation du père, ce n'est pas la vocation du fils. Il y a deux vocations différentes. Voyez la pensée dialectique. Il y a quelque chose de vrai. Tuer le père, ça veut dire le dépasser. Ah, il faut comprendre. Et il faut dépasser parce que l'éthique personnelle implique de découvrir cette autonomie. Cette finalité propre de chaque individu. Il y a la grandeur d'Aristote d'avoir découvert ça. Ça, je crois que c'est très grand, d'avoir mis en place, au point de vue philosophique, la famille, pas totalement, hein, je ne veux pas dire du tout qu'il faut répéter Aristote, il a saisi les principes. Alors, c'est ça qui est toujours très très difficile dans l'interprétation d'Aristote, c'est qu'il faut quand même interpréter Aristote selon sa philosophie. Or, Aristote distingue toujours le tiesti et le pos. Le pos, c'est le comment. Et le tiesti, c'est l'interrogation qu'est-ce. Aristote distingue les principes et la manière dont ces principes existent. Et les interprètes qui ont perdu cette distinction, aussi bien les thomistes courants, parce que ce sont des théologiens, que les autres qui sont platoniciens, ont perdu cette distinction. Alors, quand vous voyez un interprète d'Aristote, regardez tout de suite s'il a compris la distinction entre le tiesti et le pos. C'est suffisant. S'il n'a pas compris, vous pouvez être sûr qu'il va matérialiser tout Aristote. C'est ce qu'a fait Gilson. Avec la grandeur de Gilson, il n'a pas compris la distinction du tiesti et du pos. Mais il y a des petites clés comme ça qui sont fondamentales. Aristote est le premier qui a distingué le tiesti et le pos. Et c'est très important pour l'éthique, vous comprenez bien. La manière dont l'homme atteint sa fin, l'amitié. Mais il est capable d'aller plus loin, la contemplation. Je ne pourrais pas mettre deux finalités s'il n'y avait pas la distinction du tiesti et du pos. Parce que c'est quand même curieux, deux finalités. C'est quand même un tout petit peu injurieux pour la finalité. Elle est double. Alors la finalité demande d'être une. Eh bien la finalité est double, parce qu'il y a une distinction entre le tiesti et le pos. Tiesti, qu'est-ce que c'est? Tiesti, ça, il faut comprendre hein, ce langage philosophique. On y reviendra constamment. Auguste Comte, pourquoi? Grosse patte, n'est-ce pas, dit que le pourquoi, c'est l'enfant. Et le comment, c'est la science positive. C'est pas si bête, mais c'est terrible d'avoir opté pour le comment. Pourquoi sur l'enfant ? L'enfant posait pourquoi ? L'homme plaisant à Dieu, comment ? Il ne regarde plus que le comment. C'est intéressant de voir que ces choses-là sont déjà posées dans Aristote hein, et que ça commande toute son éthique. Toute l'éthique d'Aristote est commandée par cela. Découvrir le bien c'est une réalité. Et la fin c'est un principe. C'est pas la même chose. Hein. Le bien c'est une réalité. Le bien m'attire. Seul le bien m'attire. Et la fin, c'est un principe. Oui, le tiesti, elle pose. Après Aristote, comme toujours après les très grands, on n'arrive pas à se maintenir à ce niveau-là. C'est très curieux. Aristote n'a pas eu de disciple. Théophraste n'est pas un disciple. Il n'a pas au même niveau. Alors, qu'est-ce qu'il y a après Aristote ? Fatalement, il y a une divergence. Alors, vous avez deux grandes éthiques nouvelles qui divisent Aristote. L'éthique d'Épicure. Il y a une éthique épicurienne. C'est presque une religion. Vous regardez dans certaines éditions d'Épicure, vous voyez que les éditions d'Épicure datent le siècle en fonction de la naissance d'Épicure. Il n'y a pas beaucoup de choses comme ça. Hein. C'est très significatif. Parce que Épicure, ah, c'est quelqu'un qui a inventé une nouvelle religion, une nouvelle éthique mystique. En gros, on dit Épicure, c'est l'éthique de la jouissance, l'hédonisme, c'est uniquement ça, on cherche la jouissance. C'est pas vrai, attention, hein. Il faut dire que Épicure, c'est l'esthète, c'est beaucoup plus l'éthique esthétique. Épicure est pour la contemplation. Pourquoi ? Parce que c'est dans la contemplation que vous avez la plus grande jouissance. Vous recherchez la contemplation, non pas du tout pour contempler celui qui existe, mais vous recherchez la contemplation pour être en euphorie. C'est le petit chat qui ronronne auprès du feu. Il s'en fiche pas mal du feu, mais il ronronne. Il est heureux de ronronner. Il est bien, ah, oh, je suis bien là, il fait chaud. Oui, on devient épicurien quand il fait froid. Ah, c'est bien, là, je suis bien, je suis paisible, je ronronne. Le ronron du petit chat près du feu, oui, c'est extraordinaire, ça. Mais il sait très bien, Épicure sait très bien, qu'il faut atteindre la contemplation pour pouvoir ronronner parfaitement. Parce qu'il y a des ronrons différents, hein, il y a des niveaux différents. On ronronne quand on est en face d'un bon beefsteak, qu'on n'a pas mangé depuis 8 jours, ou d'un gigot excellent. On ronronne. On ronronne quand on est en face d'un bon verre de vin. On ronronne. Quand on a, pendant un certain temps, on n'en a pas pris. C'est la jouissance. Bon bourguignon en face d'un bon repas. Il ronronne. Il n'y a plus d'heure à ce moment-là. Ça ne signifie plus rien du tout. C'est le repas de jouissance et de ça. Alors on dit le repas de famille, mais en réalité, c'est chacun pour soi. Pas du tout le repas de famille. Alors, c'est le ronronnement à ce niveau de la vie végétative et le ronronnement de l'été. C'est très grand, hein, au point de vue esthétique, Épicure. C'est pas du tout banal. C'est quelque chose de grand, mais évidemment, Épicure, Dieu, le feu qui me chauffe, ce qui est intéressant, c'est que ça me chauffe. L'existence du feu, aucune espèce d'importance, il me chauffe. C'est l'essentiel. Que tu existes ou n'existes pas, ça n'a aucune espèce d'importance. L'essentiel, c'est que j'ai une jouissance extraordinaire en contemplant le beau. Oui, l'éthique de la jouissance à tous les niveaux, et en respectant ces niveaux et en essayant de comprendre que c'est le niveau spirituel qui m'apporte la plus grande jouissance. Et c'est l'éthique du maximétané au point de vue de la jouissance. Donc il y a une certaine grandeur, hein, c'est, ça ne devait pas être banal de rencontrer Épicure. Il devait être terriblement séduisant. Il y a un petit peu une parenthèse Platon, vous voyez. Mais c'est du Platon poussé jusqu'à l'extrême. Hein. Ça va beaucoup plus loin du côté esthétique que Platon. C'est vraiment l'esthète. Ce qu'on appelle l'esthète. C'est pas l'artiste. L'artiste ne cherche pas ça en premier lieu. Mais l'esthète, oui. C'est différent. Il y a comme un aspect très différent. Et en face aussi d'Épicure, il y a l'éthique stoïcienne. C'est les deux grandes éthiques qui sont après les trois. Vous avez donc cinq éthiques. C'est curieux de trouver cinq formes d'éthique dans la philosophie grecque. Socrate, Platon, Aristote, Épicure, le stoïcien. Je crois que ces cinq formes d'éthique représentent des archétypes éthiques qu'on retrouve tout le temps. C'est très intéressant à voir, ça. Alors, regardons le stoïcisme. Le c'est un peu en fait contrat contre Épicure. C'est l'éthique du devoir. Hein? Kant est stoïcien. C'est l'éthique du devoir. Il faut faire ça. C'est empoisonnant, mais il faut le faire. À tout prix, il faut le faire. C'est le devoir qui s'impose d'une façon catégorique. Le petit gosse qui n'a pas envie de manger sa soupe, tu dois la manger. Et tu resteras en face de ta soupe tout le temps qu'il faut. Et on te la resservira le soir s'il le faut. Et tu n'auras pas de dessert tant que tu ne l'as pas mangé. Vous voyez, ça c'est l'éthique du devoir. Hein? Il y a quelque chose de bon dans le dressage. Quand on dresse un animal, par le devoir. Un homme, il se dresse par l'amour. Ou il s'éduque par l'amour. Il ne se dresse pas du tout par l'amour. Mais il s'éduque par l'amour. Alors, l'éthique stoïcienne, c'est quelque chose de très beau, c'est quelque chose de très grand. Il y a de la noblesse chez les stoïciens. Il y a de la noblesse. Le stoïcien va impliquer l'exaltation de la volonté. De la boulessis, en grec, hein, la boulessis. C'est pour ça qu'ordinairement on dit les bons historiens de la philosophie grecque disent les stoïciens ont inventé la boulessis, c'est-à-dire la volonté. Elle n'est pas chez Aristote, ce qui est tout à fait faux. La volonté, elle est chez Aristote, elle est chez Platon, déjà. Elle est chez les épicuriens. Mais elle est mise en pleine lumière chez les stoïciens. Les stoïciens, c'est la philosophie de la volonté. C'est la volonté qui domine tout. Pour être un homme, il faut être volontaire. Il faut l'éducation de la volonté. Et c'est l'éducation de la volonté, donc la maîtrise de soi. Puisque l'éducation de la volonté va s'appliquer en premier lieu sur la maîtrise de soi. Être maître de soi. Ça, c'est tout l'idéal du stoïcien. Pouvoir voir la mort de son ami. Pouvoir assister à tel ou tel désastre sans broncher. Si vous n'en êtes pas responsable, vous ne regardez que ce dont vous êtes responsable. L'univers se ramène pour le stoïcien à ce dont je suis responsable. Il y a de la grandeur, vous voyez, comme c'est étroit aussi. Ce dont je suis responsable, le reste, ça m'intéresse pas. Mais ce dont je suis responsable, là oui. Alors là, sont des hommes consciencieux à l'excès. Alors ils ne voient que cela. Tout est ramené à ce volontarisme. Le stoïcien par excellence est Épictète. c'est le grand stoïcien, l'esclave devenu philosophe. C'est assez significatif aussi, hein. L'esclave devenu philosophe, il a fallu, hein, manger de la vache enragée pour devenir d'esclave philosophe. Il a fallu une volonté constante pour passer de l'esclave au philosophe. Alors, il est resté dans cette attitude volontariste jusqu'au bout. Pour Épictète, ce qu'il y a de plus grand, ce n'est plus la contemplation. Les stoïciens rejettent la contemplation. Ce sont des hommes d'action. Les volontaristes sont toujours des hommes d'action. Et donc, il y a un primat de l'action sur la contemplation. Il y a un primat de l'efficacité sur la finalité. C'est l'efficacité qui l'emporte. Si on est un primat de l'action, c'est nécessairement c'est nécessairement l'efficacité qui l'emporte. Vous voyez, il y a un passage progressif du moral au facere, au faire, à la réalisation. Et c'est en ce sens-là que Épictète et Épicure s'opposent dans le même genre. Ce sont les deux contraires dans le même genre, parce que les deux, c'est l'aspect esthétique d'un côté, et de l'autre côté, c'est le drame de l'art. Je veux me façonner, je veux me maîtriser, et je n'arrive jamais à me maîtriser complètement. Et quand on veut se maîtriser d'une façon absolue et qu'on n'y arrive pas, c'est dramatique. C'est ça le drame. Hein. Le drame intérieur, c'est ça. J'ai pris une résolution, je veux à tout prix m'en sortir, puis patatras, ça rate. C'est dramatique. Parce que vous avez mis tout l'absolu dans cette volonté d'efficacité. Et ça ne réussit pas. Vous n'arrivez jamais à dominer le réel. Vous n'arrivez jamais à dominer la matière. Et la matière craque. Et le réel vous met devant un abîme. C'est dramatique. C'est ça le drame. Hein, faut pas oublier. Dans Nietzsche, qui est la morale de l'art, c'est une morale dramatique. Nietzsche, c'est le drame. C'est le drame au très grand sens. C'est présent chez les stoïciens. Il y a une parenté entre les stoïciens et Nietzsche. Hein. Faut pas l'oublier. Non, je crois qu'il y a une très grande parenté. C'est l'aspect artistique qui domine. Se dominer, se façonner. Et tous les drames viennent de là. Parce que vous avez une vision idéale de vous. Il faut que j'arrive. Hein. Vous avez programmé. Au bout d'un an de noviciat, je dois arriver à être un religieux parfait. Et vous ne le serez absolument pas. Vous serez moins qu'au début. Alors vous êtes patatras, c'est idiot, cette histoire. Parce qu'au bout d'un an, vous vous apercevez qu'il y a en vous des quantités de choses qui échappent à votre volonté. Ce que saint Paul dit, sans drame, il y a en moi deux hommes. Un stoïcien ne dirait jamais ça. Et il y avait du stoïcisme dans Saul de Tarse. Un bon pharisien est un stoïcien. Regardez-moi, je suis le modèle de l'humanité. Il n'y avait qu'à me suivre. Saint Paul, il y a toujours un petit peu ça. Hein. Mais la grâce est passée. Alors il accepte, il y a en moi deux hommes. C'est terrible d'accepter deux hommes. D'accepter qu'on couvre la catastrophe et qu'on a un désir de la dominer et qu'on n'arrive jamais à la dominer. Le stoïcisme, c'est celui qui cherche à s'unifier au-delà de tout. S'unifier dans sa volonté, pas dans l'amour. S'unifier dans sa volonté. Et la volonté prise de cette manière-là est terriblement univoque. Alors on veut dominer, se dominer. C'est-à-dire, toutes les puissances qui sont en nous, on veut les dominer. Donc, morale de la volonté, mais d'une volonté d'efficacité. Vous voyez comment Descartes est stoïcien. On comprend mal Descartes si on ne regarde pas le stoïcisme de Descartes. Élève de la compagnie. On redécouvre dans la compagnie un certain stoïcisme. C'est bien évident, un stoïcisme baptisé, c'est évident, un stoïcisme baptisé, mais quand même un stoïcisme. Il faut se dominer, il faut arriver à se dominer. L'éducation de la volonté. L'éducation de la volonté prime. Alors l'éducation de la volonté, quand ça prime, une volonté d'efficacité, que dit Descartes ? La volonté, qu'est-ce que c'est ? Une puissance d'efficacité. Il ne dit pas du tout que la volonté, c'est pouvoir aimer. Ah non, non, non. Saint Thomas, lui, dit que la volonté est premièrement une capacité d'aimer spirituellement. Et ceci est complètement oublié avec Descartes. L'amour est regardé au niveau du sentiment, au niveau passionnel. J'aime, ah, parce que je sens. Je suis ému. Donc l'amour est relégué au niveau passion. La volonté, ben, c'est faire son devoir et le réaliser jusqu'au bout. Même s'il faut en mourir, ça n'a pas d'importance. Oui, on se fait soi-même martyr. C'est pas ça le martyr. Hein. Le martyr, c'est celui qui est témoin de l'amour. Mais il y a quelque chose de très grand et en même temps de très fragile dans le stoïcisme. Le stoïcisme a joué un rôle très très important. Hein. Faut pas l'oublier. Le stoïcisme d'Épicure est très grand, très beau, difficile à bien saisir. Mais entre Épicure et